La parole ne pourrait jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigueur littéraire de Enoch Guidjimé sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigueur littéraire.
La Vigueur littéraire. La Vigueur littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigueur littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éducation, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigueur littéraire de ce jeudi 4 juin 2026. Ils sont siamois, ils sont baptisés le vendredi 29 mai passé. Ils portent les mêmes objectifs, redonner à l'éducation africaine sa capacité de produire du sens, de la stabilité et de la souveraineté culturelle. Ils ont été accouchés dans le même hôpital éditorial, Mérite Patatou, et revendiquent le même préfacier, le professeur Gabriel Kouvi-Boko. Ils, ce sont deux ouvrages dont « Modernité de l'éducation traditionnelle africaine, contribution à une endogénisation du système éducatif béninois ». Donc le plat de résistance de ce numéro de votre émission, La Vigueur littéraire. Ce livre, cousu en 294 pages, est coécrit par Yelindo Patrick Rouessou, docteur en sciences de l'éducation, professeur titulaire des universités de Kames, et Feu Chabi Joseph Rodrigue Akapo, doctorant en sciences de l'éducation. Ce livre, loin d'être une simple publication académique, est un hommage à titre posthume rendu à son étudiant décédé en cours de préparation de sa thèse de doctorat. Une plume au service de la refondation de l'éducation africaine, c'est le thème de ce numéro. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons suivre le cachet littéraire avec Christelle Abayi. Christelle, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui?
Habitants de la cité littéraire et convives, merci d'avoir pris ce rendez-vous pour découvrir les nouveautés et les merveilles qu'offre la littérature béninoise. Ce numéro du cachet littéraire aborde trois points essentiels. Le samedi 6 juin, à la bibliothèque Bénin Excellence de la FSS Cotonou, à partir de 9h, une nouvelle voix fera son entrée dans la grande famille des écrivains béninois. L'autrice Généreuse Haï présentera officiellement au public son tout premier ouvrage intitulé « L'heure pour toi sonne », publié aux éditions Isidore de Souza. Cet ouvrage de 94 pages est constituée de 40 poèmes et de 4 pensées. À travers ses écrits, elle encourage chaque lecteur à s'impliquer davantage dans son développement personnel ainsi que dans la construction d'une société plus équilibrée et plus humaine. Dans ce même élan de célébration du livre et de la lecture, s'inscrit le Brunch des Livrovores, organisé par l'association Sorami. Après 2 éditions réussies, cette troisième s'annonce encore plus palpitante avec de nombreux surprise pour les amoureux des lettres. Un moment de découverte, de réseautage et de proximité avec les acteurs du monde littéraire béninois. Placé sous le thème « Écrire l'avenir, santé sexuelle et reproductive, égalité des genres et autonomisation des jeunes ». Il aura lieu le dimanche 26 juillet 2026 à 14h. Vous avez donc environ 2 mois pour prendre part à ce festin. Au-delà des plumes et des pages, c'est tout un cadre institutionnel qui se réinvente. Le secteur de la culture et des arts est désormais rattaché à la préservation du patrimoine béninois. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, connu pour ses actions en faveur du rayonnement culturel, change de dénomination. On parlera désormais du ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, axé sur la préservation et la transmission de l'héritage culturel. Il est dirigé par Yacine Latondi. Ainsi s'achève ce numéro du cachet littéraire. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, demeurez passionnément littéraire.
Merci Christelle Abayi pour cette randonnée littéraire. Je l'avais annoncé, une plume au service de la refondation de l'éducation africaine est le fil rouge de votre émission de ce jour. Ce sera un débat passionnant avec Yelindo Patrick Rouessou, auteur de ce livre. Avant de mettre le pied à l'étrier, écoutons ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour échanger avec le professeur Yelindo Patrick Rousseau, docteur en sciences de l'éducation. Il est professeur titulaire des universités de Kames, spécialiste des questions d'échecs et de réussite universitaire. Il propose ces dernières années des réflexions sur la nécessité de culturaliser les systèmes éducatifs africains et sur l'obligation de rééduquer l'homme noir afin de lui faire récupérer sa conscience historique. Professeur, bonjour.
Bonjour, Monsieur Guidjimé.
J'espère que vous allez très bien.
Très bien.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous aussi de m'avoir invité.
Alors, ce 4 juillet est célébrée la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agressions, les attaques contre les écoles, les hôpitaux, etc. Quel est votre mot?
Je voudrais avoir une pensée donc, pour tous les écoliers à travers l'Afrique qui sont victimes d'attaques violentes, justement dans les écoles. J'ai une pensée particulière pour les enfants congolais. On n'en parle pas souvent. Le drame qui se joue là-bas est terrible et on a le sentiment que l'Afrique entière ferme les yeux là-dessus. J'ai une pensée également pour tous les enfants du Sahel. Et quand je dis Sahel, c'est cette bande-là qui va depuis le Mali. On pourrait même l'étendre au Sénégal, mais bon, pour l'instant, disons, depuis le Mali jusqu'au Tchad et même jusqu'au Soudan. Vous voyez, donc c'est une journée utile. Je voudrais avoir une pensée pour eux et aussi avoir une pensée pour tous nos enfants aussi, ici au Bénin, qui depuis peu commencent de plus en plus à malheureusement connaître aussi cette situation-là.
Alors, professeur, écrit est un acte de volonté, publié est un acte de foi. Vous êtes l'auteur de deux livres dont « Modernité de l'éducation traditionnelle africaine, contribution à une endogénisation du système éducatif béninois ». Quel est donc le contexte de publication de ce livre?
Le contexte de publication, d'abord, vous me permettrez, tout à l'heure, vous avez prononcé avec une petite difficulté le nom de l'édition, mais je comprends. Les mots égyptiens, négro-égyptiens, ce ne sont pas des mots que nous avons l'habitude de prononcer. Wow. Et donc, c'est normal que de temps en temps, on fasse des erreurs. Et même moi qui vous parle, il y a des mots sur lesquels je bute. Mais le nom de l'ouvrage est édité, est paru aux éditions Mérypta. Mérypta.
En tout cas, je ne pouvais pas prononcer.
Passe à Château. Alors, le docteur Olou, qui est responsable de ces éditions-là, a associé deux noms égyptiens et ces deux noms de femmes. Ce sont les premières femmes scientifiques que l'humanité ait connues. Et quand je dis ça, c'est parce que ce sont les deux femmes scientifiques sur lesquelles on a une histoire documentée. Il est vrai, Mérypta, elle n'est pas très connue parce qu'il n'y a pas suffisamment de documentation sur elle, mais Passa Chatou en a. Et elle a été la première femme médecin que l'humanité a connue. Après Mérypta, qui l'a été aussi, sauf que comme je dis, il y a juste une petite stèle sur laquelle on retrouve des inscriptions pour Mérypta. Mais pour Passa Chatou, il y a vraiment de la documentation. Et elle a été doyenne des médecins au sens moderne du terme. Et quand je dis moderne, c'est juste pour dire au sens actuel du terme. C'est pour dire que aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, la femme a toujours occupé des premiers rangs en Afrique. Le contexte de création, ou du moins de publication de ce livre, et là, avant de le dire, j'ai forcément une pensée pour le co-auteur que vous avez évoqué, Feu Chabi Joseph Rodrigue Akakbo, mon étudiant, avec qui j'ai écrit ce livre-là. Et si nous sommes en Afrique et que nous convenons que les morts ne sont pas morts, eh bien, je veux bien croire qu'en ce moment même où je vous parle, il est à mes côtés et qu'il participe à l'émission avec nous. C'était mon doctorant. On avait une relation de complicité assez forte. Et il était engagé sur ce sujet-là, sur lequel je lui avais demandé de travailler. Et malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de sa thèse. Alors, j'ai promis de porter la thèse jusqu'au bout et de la publier. Certes, ce travail n'est plus sous un format de thèse académique attendu, mais un retravail a été fait pour que désormais il soit mis à la disposition du public de façon à ce que la lecture soit plus digeste. Je ne dis pas que les thèses académiques sont indigestes, non, mais c'est juste qu'il y a une méthodologie parfois dans laquelle on entre qui fait que, disons, le public, le premier public venu peut trouver cela un peu rébarbatif. Et là, il est dans un format un peu plus grand public. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel ce livre a émergé.
Alors, modernité de l'éducation traditionnelle africaine, est-ce une opposition ou une juxtaposition entre modernité et tradition?
C'est à volonté que le titre paraît antinomique dans le choix de ces mots, parce qu'on met modernité à côté de tradition et tout de suite, ce n'est même pas tout de suite, en fait, on nous a habitués à l'école à voir la tradition comme une sorte d'arriération et puis la modernité comme une sorte d'actualisation de tout ce que nous faisons. Or, ce n'est pas vrai. En vérité, à travers ce titre, on essaie de montrer tout simplement qu'il n'y a pas
d'opposition
entre modernité et tradition. Et j'ai l'habitude de dire, pour résumer très simplement la chose, que la modernité n'est qu'une actualisation permanente de la tradition. En vérité, la raison pour laquelle nous avons tendance à opposer modernité et tradition, c'est simplement parce que ce que nous appelons modernité désormais, c'est ce qui nous vient de l'extérieur. Et comme, en général, nous avons été très occidentalisés dans notre façon de faire, ce que nous appelons modernité, c'est l'occidentalisation de tout. Et puis, nous avons tendance à l'opposer à ce qui était une habitude pour nous et qui aurait dû évoluer et ne pas être considéré comme une tradition, mais tout simplement comme une actualisation de notre tradition. Mais aujourd'hui, quand on dit modernité et tradition, on est dans cette opposition-là qui est factice, qui n'est pas juste et qui parfois ne nous permet pas d'avoir une analyse juste des situations ou des choix aussi à faire. Donc ici, modernité de l'éducation traditionnelle, c'est tout simplement pour dire que notre éducation traditionnelle est encore vivace et moderne. Et il n'y a pas à l'opposer à l'éducation dite moderne.
Yelindo, est-ce que vous êtes kamite? Êtes-vous kamite par hasard?
Nous sommes tous kamite, parce que si vous voulez entrer dans l'étymologie du thème, je n'en suis pas particulièrement spécialiste, je ne suis pas spécialiste d'histoire, mais j'ai fini par en apprendre un peu plus sur moi-même. Et quand on dit kamite aujourd'hui, un peu comme le mot panafricaniste aussi, qui est un peu galvaudé, on a tendance à vous regarder un peu de travers, un peu comme un activiste subversif qui empêche tout le monde de dormir. Non, nous sommes tous kamite pour la simple raison que Kama, Kemet, c'est le nom de l'Afrique ancestrale. C'est aussi simple que ça. Et ça signifiait quoi? Kem. Kem pour dire noir. Donc quand on dit Kemet, c'est les enfants noirs, le pays des noirs. Donc quand on dit est-ce que vous êtes Kamite, en vérité c'est un peu comme si vous, je vous demandais, monsieur Guidjimé, est-ce que vous êtes noir? Mais je suis noir. Mais pourquoi est-ce que vous me posez une question pareille? Omotunde disait, mon combat, ma peau, ma tenue de combat. Il a fait une émission qu'il a intitulée comme ça, « Ma peau, ma tenue de combat ».
Mais on sent que vous défendez
rien que notre peau nous oblige à accepter qu'on est Kamite ou on est de Kemet. Donc voilà, c'est simplement parce qu'on ne connaissait pas ces termes-là que ça nous fait un peu peur. Et puis quand on commence à en parler, les gens vous regardent un peu curieusement, mais en vérité, il n'y a pas de quoi.
Alors, dans votre livre « Forte inclinaison scientifique », vous avez fait l'historique et le contenu des différentes réformes éducatives au Bénin, les finalités de la réforme 1971, le principe cardinal, vous l'avez rappelé dans votre livre « Noir sur blanc », c'est à la page 40, vous dites « L'éducation permet l'épanouissement des aptitudes de l'individu, mais elle forme en même temps un être social qui participe à la vie et au progrès de son pays. L'école béninoise ne peut se contenter de transmettre des connaissances à un enfant, puis à un adolescent, et de lui apprendre à raisonner. Elle doit en même temps lui donner les moyens d'utiliser connaissances et raisonnement dans la vie pratique. Elle a donc pour but de développer l'aptitude à promouvoir les progrès techniques, économiques, sociaux et culturels en se référant de façon permanente aux valeurs spécifiques du milieu, soit pour les conserver, soit les adapter. » Alors, je n'ai pas fini de lire. Alors, au regard de vos recherches, est-ce qu'il y a un effort et qui est fait en vue d'atteindre cet objectif-là?
C'est justement cet effort que je me propose de faire. Je ne suis pas le seul, beaucoup d'autres l'ont fait aussi, mais il faut dire que puisqu'on est là pour parler de mon livre, on va rester concentré là-dessus. Et donc c'est cet effort qui a tenté d'être fait dans ce livre. Vous voyez, Nous, et là, pour les auditeurs, je leur dis que la question que vous posez nous ramène au chapitre premier de l'ouvrage.
Bien
le
sûr.
Chapitre premier qui porte sur les réformes dans le système éducatif. En général, même en sciences de l'éducation, quand on enseigne les réformes, on a tendance à commencer à parler des réformes seulement depuis l'indépendance.
Alors que...
Mais il y a déjà les réformes qu'il y a eu avant l'indépendance. Et avant l'indépendance, il y avait aussi autre chose et ainsi de suite. Donc c'est un peu tout ça que j'essaie de mettre de façon un peu cohérente, ordonnée dans le livre. Mais là, tout de suite, nous sommes, quand vous citez 1971, nous sommes donc là avec la réforme Grosse Tête d'Osuyovo. Mmh. Pour extrapoler un peu la question, même si je vais y revenir précisément, vous voyez, depuis 1960 seulement, nous avons enregistré plus d'une dizaine de réformes au niveau du système éducatif. Plus d'une dizaine. Il y a eu donc la réforme de l'école dite coloniale, déjà en 1960, quand on a eu les prétendues indépendances. Ensuite, il y a eu, à peine un an après, il y a eu la réforme de l'école coloniale dite indépendante et ensuite la réforme Grosse Tête d'Osuyovo qui a commencé à être mise en application en 1971. Je ne vais pas tous les citer, mais jusqu'à tout dernièrement où nous sommes là, dans les réformes du système LMD pour ce qui concerne l'université et l'APC qui a commencé depuis, je crois, les années 90, mais qui ont fini véritablement par prendre corps à partir des années 2000. Et il faut dire que nous sommes dans une forme de réforme aussi depuis 2016 de l'école. Bon. Le problème, c'est que quand on analyse tous les actes qui sont issus des différentes réformes réalisées, on se rend compte d'une chose qui revient toujours, c'est que toutes ces réformes-là pêchent par leur inadéquation avec les réalités locales, les réalités
du milieu.
Il n'y a pas un seul acte qui n'en parle pas.
Mais
pourtant, chaque fois qu'on fait des réformes, c'est toujours la même chose. On a tendance à laisser de côté le savoir traditionnel, alors que la déclaration de Jomtien en Thaïlande, en 1990 déjà, disait que le savoir traditionnel est le patrimoine culturel autochtone. Pardon, le savoir traditionnel est... Le patrimoine culturel autochtone ont une valeur et une validité propre. Et peuvent servir aussi bien à définir qu'à promouvoir le développement. Le développement n'est pas
ailleurs.
Économique, le développement n'est pas infrastructurel, le développement n'est pas, excusez-moi, folklorique.
C'est sur les humains.
Le développement, c'est d'abord culturel. Le développement, c'est d'abord culturel, profondément culturel. Et lorsqu'on aura compris ça, on se rendra compte que, au niveau de l'éducation, si on a un système ou des réformes qui ne sont pas arrimées à nos cultures, on passe à côté de quelque chose. Et c'est certainement ce quelque chose à côté duquel on passe qui fait que on a tendance à voir se répéter les mêmes erreurs au fur et à mesure que l'on change ou que l'on promeut des réformes. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis dit qu'il fallait qu'on revienne un peu à l'origine de tout ça. Et le passage que vous avez lu est encore un de ces exemples de réformes qui disent idéalement ce qu'il faut faire,
mais
qui, une fois sur le terrain, échouent parce que on a tendance à rester les deux pieds ancrés dans cette modernité dont on nous parle, mais qui, en vérité, est une occidentalisation de nos réalités, qui entre toujours en conflit avec nos réalités culturelles.
C'est pas comme si on est en train de tourner autour d'un puits de façon incessante.
Merci
là.
De me prêter le mot. On tourne un peu en rond, on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond.
Auditeur.
Tant qu'on ne sera pas entré dans notre culture pour avoir un développement intrinsèque, j'ai la faiblesse de penser que nous allons toujours tourner en rond, tourner en rond. Pourquoi ? Parce que, excusez de caricaturer les choses un peu comme ça, mais quand vous êtes dehors, vous vous rendez compte que vous êtes différent. C'est seulement quand vous êtes chez les autres que vous vous rendez compte que les autres passent leur temps à développer leur être profond, leur culture, et vous demande de vous exprimer culturellement. Et quand vous en avez du mal, en ce moment-là, vous prenez conscience du fait que vous êtes déraciné. Nous avons toujours tendance à citer les prouesses des autres, mais nous refusons de suivre les chemins par lesquels ils sont passés pour en arriver là. Et dès qu'il y a un élément en actualité, on saute à pieds joints là-dessus et puis on dit « bon, on veut être aux normes internationales, on y va », alors que parfois on ne les met pas en résonance ou en relation avec ce que nous sommes au fond.
Auditeurs, auditrices de la web radio Éducation, une pause s'impose.
Maman Larissa Souglou est doué. Nakouti de Londres Souglou est doué. Béi à nous maléo. Béi à nous maléo. Béi à nous maléo. Grâce bien n'a jamais saoulé. 66 n'a jamais saoulé. Les pots qui n'ont jamais saoulé. C'est celui qui boit, c'est lui-même qui se saoule. Toi, tu pensais que quoi? Tu es seul, tu bois un casier de bière, tu penses que tu arrives à la maison. Il y a mon lieu. Tu as dormi dans le caniveau, c'est français. Tu penses que quoi? Akobakoro, il n'y a pas Kita. Akobakoro, il n'y a pas piano. Akobakoro, il n'y a pas batterie.
Retour en studio pour continuer les échanges avec Yelindo Patrick Rousseau, professeur titulaire des universités de Kames. Il est l'auteur de l'essai éducatif « Modernité de l'éducation traditionnelle africaine, contribution à une endogénisation du système éducatif béninois ». Vous l'avez dit, on semble tourner en rond autour d'un même puits. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du système éducatif béninois ?
Le système éducatif béninois fait son bout de chemin, un peu comme les autres systèmes qui ont été pendant longtemps sous domination civilisationnelle, je dirais. Nous faisons notre bout de chemin et je veux bien espérer que nous finirons par nous retrouver un de ces quatre.
Donc on se perd depuis, on a déraillé, n'est-ce pas ?
On se cherche encore un peu, on essaie de retrouver nos marques. Mais au regard du développement que je viens de faire, pour moi, tant que notre système ne sera pas arrimé à nos réalités culturelles, on sera toujours en train d'errer un peu.
C'est vrai, vous l'avez fleuri tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous reprochez à l'éducation africaine ?
C'est ce que j'étais déjà en train de dire. En fait, reprocher peut-être le terme un peu trop... un peu comme un censeur, je ne suis pas un censeur ou un maître avec un bic rouge pour venir noter. Non, à la limite, c'est peut-être un peu prétentieux, je ne reproche rien. Nous sommes dans des dynamiques historiques et les différentes autorités qui passent font ce qu'elles peuvent. Donc, je n'ai pas à reprocher, mais je me dis, au fur et à mesure aussi que les années passent, tous ensemble, parce que c'est tous les enfants d'un pays qui travaillent à développer le pays et à développer des secteurs spécifiques. Moi, je suis en éducation, je suis un spécialiste des sciences de l'éducation. Donc, dans mon secteur, je travaille à cela. Une petite anecdote, très rapidement. Pendant longtemps, je n'ai pas enseigné comme j'enseigne aujourd'hui, parce que j'étais resté sur les informations que j'avais quand moi-même j'ai été à l'école. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait aller plus loin, et je me suis rendu compte de tout ce qu'on ne m'a pas appris à l'école. Mais ça, c'est mon chemin à moi qui m'a permis désormais de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ceux qui ne se posent pas cette question, ou ceux qui n'ont pas fait ce chemin, ils resteront convaincus de ce qu'on leur a appris.
Mais à quand remonte le déclic là ? Pendant longtemps, vous avez enseigné comme tout le monde. Aujourd'hui, l'enseignement a pris une autre tournure.
Le déclic parfois, il vient de ce que nous sommes intrinsèquement. Comportement, caractère, intuition, sentiment, ça vient un peu de tout ça. Moi, j'avais déjà, à la base, j'étais quelqu'un de très porté sur l'expression de moi-même et une meilleure connaissance de moi-même. Je n'ai jamais été impressionné par tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, quand je commence à enseigner et que toutes les références que je fais sont toujours occidentalisées, j'ai un peu mal. Mais à défaut d'avoir de la matière, je continue à le faire. Mais quand j'ai continué justement ma recherche et que, heureusement, je suis tombé sur ce que je considère comme un trésor inépuisable de ce que nos ancêtres nous ont laissé, eh bien, depuis, j'ai de quoi présenter. Parce que, bon, quand on est enseignant, il ne faut pas aussi parler selon seulement ce que vous disent vos tripes. Il faut aussi parler avec des preuves et avec de la documentation. Donc, depuis que j'ai cette documentation, vous pouvez demander à mes étudiants, ils savent que j'ai presque radicalement changé mon discours pour leur montrer ce que leurs ancêtres leur ont laissé comme héritage. Parce qu'en fin de compte, nous ne pouvons que porter ce que nos ancêtres nous ont laissé.
Alors, quelles sont les trois plus grandes limites du système éducatif béninois actuel et qui justifie cette endogénisation-là ?
Je sais que le temps est un peu avancé, donc je ne vais pas en évoquer trois, juste une seule. Et qui revient encore à ce que je suis en train de dire depuis, mais je vais vous donner un exemple seulement. un exemple que d'ailleurs on retrouve dans le livre, dans le chapitre 4. Une des limites, ou la plus importante, c'est justement cette absence de culturalisation. Et pour le faire, quel élément peut-on prendre ? C'est par exemple le fa. Dès qu'on commence à dire le fa pour tous ceux qui ont été christianisés, je ne dis pas ça comme une critique, comme une injure. C'est tout une fois de plus encore notre histoire. Mais une fois de plus, tous ceux qui sont passés par là, ils ont eu une réaction épidermique d'opposition. Alors qu'il faut chercher à savoir de quoi il s'agit. Vous voyez. Et donc, dans le livre, vous avez un exemple concret. Et l'exemple va même plus loin. Et là, je voudrais dire merci à mon ami Chabi Akapo Rodrigue, parce qu'il a enquêté. C'est une enquête de terrain ici qu'il a révélée. Il y a une école qui, malheureusement, n'a pas été fermée, mais cependant, l'a été supprimée depuis. Allez savoir pourquoi. Mais il y a une école primaire qui enseignait le fa à l'école tout en continuant d'enseigner le programme. Et vous avez cela au niveau de la page. À partir au chapitre 4, à partir de la page 148, à la découverte du fa comme mode de connaissance. Et vous voyez que si on devait enseigner cela à l'école, mais vous aurez des enfants de 10 ans qui ne seront plus inquiétés et apeurés par ce qu'un prêtre du fa pourrait leur dire, parce qu'on agite ça comme épouvantail, voilà, ils vont te permettre l'expression, ils vont te basser, ils vont t'envoyer des énergies négatives, des choses comme ça. Mais alors qu'il y a de la science derrière tout ça. Et cela, non seulement il y a de la science, mais il y a de nous-mêmes, il y a du soi. Et c'est cela qui est repris dans le programme qui est présenté à la page, de la page 181 à la page 185. Un programme concret qui était mené et qui montre comment chaque situation d'apprentissage pourrait intégrer des valeurs culturelles que l'on ferait passer pour enseignement, information à transmettre. Si on enseigne comme ça, moi je pense que c'est déjà un début. Et de la même manière, il y a plusieurs autres éléments qu'on peut didactiser et introduire dans nos programmes.
Alors,
c'est totalement faisable.
Professeur, si on applique les pistes du livre, à quoi ressemblerait un élève béninois formé 20-35?
Eh bien, il ressemblerait enfin à un élève béninois. Et non à un élève...
Non, vous êtes dans la phrasiologie, là, pour vous.
Non, je crois qu'on se comprend. Vous devez comprendre ce que je dis. C'est dit, en fait, ce que vous ne savez pas, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on se retrouve à l'extérieur, les gens ont envie de découvrir qui vous êtes. Quand vous rencontrez le Chinois et que vous lui dites que vous vous appelez Roger Pierre, quand vous lui dites que vous vous appelez, excusez-moi beaucoup, nos chers frères à Gouda, quand vous lui dites que vous vous appelez Olympio, vous vous appelez Damata Santana. Mais écoutez, pour la petite anecdote, moi je me suis presque bagarré avec l'un de mes amis en Belgique parce qu'il me refusait que Angélique Kidjo soit béninoise. Parce qu'il l'a toujours prise pour une brésilienne, simplement parce qu'elle chante en Yoruba. Bon, ça, je ferme la parenthèse rapidement pour vous dire que l'identité, c'est ce qui enrichit la rencontre avec l'autre. Lorsque vous rencontrez l'autre et que vous êtes un miroir de lui-même, alors que vous n'êtes pas lui, mais vous n'êtes qu'une copie de lui.
Il va se moquer de vous.
Et il se moque de vous en vérité. Dès que vous retournez, il se moque de vous. Mais lorsqu'il rencontre votre identité, il me dit « Bien, voilà une identité et je m'enrichis au contact de l'identité. » C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que nous serons là à reprendre, je reprends une expression de Jérôme Carlos, qu'aime bien citer Monsieur Awamenou, à qui je fais un petit clin d'œil. Tant que nous resterons des
chimpanzés,
perroquets récitants et des singes grimaçants, eh bien, les autres vont toujours se moquer de nous, rire de nous. Et nous avons besoin d'être nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que nous ressemblerions aux Béninois.
Alors, que représente le professeur béninois, le philosophe béninois Paulin Mutondi et l'écrivain guadeloupéen Kalala Motundé pour vous, parce que vous les avez cités dans votre livre?
Paulin Mutondi, vous le savez, il a beaucoup travaillé sur l'endogénéité. Il a souhaité voir cela arriver. Et donc, forcément, il était en philosophie. Moi, je suis en sciences de l'éducation. C'était un aîné. Je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, mais sur la fin, oui. Et donc, forcément, les souhaits étaient les mêmes. Et donc, je pense que c'est des gens à qui nous devons souvent faire référence. Pareil aussi pour Omotunde. Omotunde fait partie de ceux-là qui m'ont aidé à faire ma mue. Parce qu'au moment où j'étais en train de me chercher, au moment où je cherchais de la documentation et tout ça, d'écouter des gens comme Omotunde, d'écouter des gens comme Kovi Gomez, d'écouter des gens comme Dodji Djaouti Olu, ou encore bien d'autres que je ne pourrais citer ici, ils m'ont aidé, comme je le disais là, à faire ma mue. Et donc forcément, ils sont importants pour moi. Et quand quelqu'un s'en va, disons que les autres vivants, oui, parce que nos ancêtres préféraient la vie, mais il faut avouer que nous avons aussi intérêt à rendre hommage à ceux qui sont partis. Et donc, depuis qu'il est parti, je crois que je rends presque tous les jours hommage à Omotunde pour ce qu'il a pu apporter à l'Afrique en termes de connaissance de soi et en termes de conscience historique retransmise. Et donc, je leur dois beaucoup à tous ceux-là. Et ils sont nombreux à être de plus en plus dans cette vision d'une Afrique qui se retrouve enfin.
Alors, quel est votre mot de la fin? Parce qu'on est en train de chuter lentement et sûrement.
Les auteurs, les auditeurs, les auditrices et les auditeurs me permettent d'avoir un mot de fin adressé à mon doctorant, parce que ce travail n'a pas été fait sans lui, je le disais en début. Chabi Joseph Rodrigue Akapo, c'est un doctorant pour qui la majorité des témoignages étaient unanimes sur le fait qu'il était disponible et disposé et qui avait aussi la certitude qu'il fallait que nous retournions à nous-mêmes, d'où la volonté de travailler sur ce sujet que je lui avais proposé. Et donc, j'ai une pensée profonde pour lui ce soir.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers férus des mots et de la littérature. Nous fermons doucement les pages de ce livre en ouvrant le débat hors antenne. Modernité de l'éducation traditionnelle africaine, contribution à une endogénisation du système éducatif béninois, est une œuvre importante dans le champ des sciences de l'éducation en Afrique. Il participe à la décolonisation épistémologique, la critique des héritages coloniaux, la reconstruction d'une pensée éducative africaine et à la réhabilitation des savoirs endogènes. À travers ce livre, l'auteur nous rappelle que l'avenir de l'Afrique ne se construira ni dans l'oubli de sa mémoire, ni dans l'imitation passive de ses modèles extérieurs. Il construira dans la capacité du continent à penser lui-même, son école, son savoir et son destin. L'anthropologue sénégalais Tiek Anta Diop ne le dira jamais assez quand il affirme, je cite, « Armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. » Quant à moi, je dirai à mon tour, le livre « Un débat avec Eba » entre le lecteur et l'auteur. Gildas Beyanzin Awagbe, Jean-Marie Arotondi, Franklin Gbeyon, Christelle Abaye et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Gildas Beyanzin Awagbe a assuré la manipulation technique, réalisation Ferdinand Zamba, la coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue littéraire, comme on le dit en fond et d'abord.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc'Action.